Chapitre 7. Avis aux débiteurs. M. Tyrold avait pensé sagement que le seul moyen de cacher au chevalier l'affliction de Camilla était de ne pas la laisser paraître. Car, quoiqu'il fût possible de contraindre ses larmes et ses soupirs, sa tristesse et le son de sa voix suffisaient pour la trahir. Ses yeux avaient perdu tout leur éclat et jusqu'à son sourire annonçait la douleur. M. Tyrold aimait si tendrement Edgar qu'il n'était point surpris des regrets de sa fille, mais il ne savait pas qu'au chagrin d'avoir perdu son bonheur personnel, Camilla joignait encore la douloureuse connaissance des peines cuisantes qui devaient bientôt assaillir son père et son oncle. Le jour suivant, tandis qu'il déjeunait, le domestique annonça le docteur Marchmont. Camilla, prête à se trouver mal, fut troublée d'une foule d'idées qui se pressaient toutes ensemble dans son imagination. Quel était le motif de sa visite? D'où venait-il? Était-il accompagné d'Edgar ou venait-il de sa part? Edgar était-il de retour à Beech Park ou déjà sur le continent? Elle craignait de sortir de la chambre dans la crainte de rencontrer Edgar au passage et craignait encore d'y rester dans la crainte de voir entrer le docteur Marchmont sans lui. M. Tyrold conduisit le docteur dans son cabinet d'études. Les regards du docteur n'avaient point leur expression ordinaire et n'annonçaient rien de satisfaisant. Après quelques instants d'une conversation ordinaire, il remit à M. Tyrold une lettre d'Edgar. Après des protestations de respect et d'attachement inviolable, Edgar donnait en peu de mots, et cependant d'une manière touchante et respectueuse, un désistement pur et simple de l'alliance projetée, qui détruisait tout espoir de réconciliation. M. Tyrold tint un moment sa tête baissée et soulagea son cœur par un profond soupir. Mais la résignation, qui ne lui manquait jamais dans les adversités, vint à son secours. Il se tourna vers le docteur d'un air calme et conversa tranquillement avec lui d'affaires qui n'avaient point de rapport avec la circonstance présente. Le docteur Marchmont n'entreprit point de lui témoigner l'intérêt qu'il prenait à sa peine. Il se retira pour épargner à cet homme respectable des efforts inutiles et pénibles. Lorsque le docteur sortit, M. Tyrold, en lui tendant la main, lui dit « Quand vous écrirez à Mandelbert, assurez-le de ma tendre et constante affection. » Mais au sortir de cette conversation, leurs tâches étaient bien différentes. Le docteur Marchmont décrivit à Mandelbert que tout s'était passé fort paisiblement et qu'il avait honorablement rempli ses vues. M. Tyrold, enfermé dans son cabinet, y passa seul quelques-uns des plus cruels instants de sa vie, en tâchant de reprendre la tranquillité nécessaire pour informer sa fille de son sort. Sa compassion pour ce qu'elle devait souffrir accéléra le succès de ses efforts. Il envoya chercher. La pâle et tremblante Camilla s'avançait, les yeux baissés et d'un pas lent. Mais lorsque, la serrant dans ses bras, il l'embrassa, son imagination fut subitement ranimée par un rayon d'espoir. Elle leva les yeux et son regard éclaira sa méprise. La tendresse de son père ne ressemblait point à la félicitation. Elle exprimait un intérêt pénible et la douleur qui s'y mêlait, quoique calme et paisible, suffisait pour dispenser de toute autre explication. Sa tête troublée tomba sur le sein de son père. Elle l'inonda d'un torrent de larmes et rejoignit sa sœur sans que le père ou la fille eussent pu prononcer un seul mot. Bientôt après, M. Tyrold ramena Camilla dans son appartement. Il la pressa de réfléchir qu'elle n'était pas la seule affligée, que le cœur de son père n'était pas moins déchiré, que la douleur à laquelle on résistait n'était pas la moins vive. Les tendres consolations de son père auraient pu la calmer si tout avait été connu, si l'inquiétude d'une faute ignorée n'avait jeté le trouble dans son âme. Tandis que cette pensée la tourmentait sans relâche, elle reçut une lettre de Mistress Mitin. Elle lui mandait que M. Clyke, le prêteur d'argent, attendu sa grande jeunesse et l'éloignement de sa majorité, ne voulait point terminer l'affaire à moins d'un intérêt de 10% et d'un présent de 20 guinées. Cette dernière demande étant au-dessus de ses moyens, lui donna le courage de confesser sa faute. Elle saisit ce premier mouvement pour aller raconter toute l'affaire à son père, se jeter à ses genoux, implorer son pardon. Mais pour exécuter cette sage résolution, elle choisit un mauvais moment. Elle entra dans la chambre avec un air d'agitation dont elle désirait que son père s'aperçût, afin que ses questions frayassent le chemin à la confession qu'elle voulait lui faire. Mais M. Tyrold était sérieusement occupé de la lecture d'une lettre et de l'examen de quelques papiers, de sorte qu'il ne leva point les yeux à son approche. Elle attendit en silence qu'il terminât sa lecture, mais après l'avoir fini, il porta la main à son front avec l'air si troublé que, saisie de frayeur et supposant qu'il avait reçu de Lisbonne quelques mauvaises nouvelles, elle oublia son projet et lui demanda si la poste étrangère était arrivée. « J'espère que non, répondit-il. Je ne pourrai pas, dans ce moment-ci, jeter les yeux sans douleur sur l'écriture de votre malheureuse mère. » Saisie d'épouvante, Camilla ne savait que conjecturer. Elle glissa la lettre de Mrs. Mitin dans sa poche et n'osa plus suivre ses premières vues. « Quelle réception » ajouta-t-il après quelques instants de silence. « Quel spectacle se prépare pour la plus respectable des femmes lorsqu'elle reviendra de son triste exil. Que de nuages s'amoncellent sur ce jour que j'ai longtemps désiré comme le plus brillant et le plus heureux de ma vie. » En donnant à Camilla la lettre et les papiers, « Je m'étais flatté, lui dit-il, que mon fils serait un jour le protecteur de ses sœurs, la gloire de sa mère et l'appui de son père. Voyez, ma chère Camilla, sur quel fondement les faibles mortels bâtissent leurs espérances. » La lettre était d'un marchand très estimé. Il se plaignait que, durant les 3 années que Lionel avait passées à l'université, il n'avait pas acquitté un seul mémoire, quoiqu'il fît toujours de nouveaux achats. Il priait M. Tyrold de vouloir bien régler les comptes qui lui faisaient passer, le jeune homme ayant disparu subitement. « Le total monte, ajouta M. Tyrold, à 171 livres sterling, et relativement à mon revenu, cette somme est effrayante. Quelle sorte de vie a donc été la sienne ? Encore ces mémoires considérables ne sont-ils probablement que les avant-coureurs de ceux qui doivent les suivre ? Je m'attends à recevoir tous les jours ceux du chapelier, du cordonnier, du marchand de bas, du tailleur, enfin de tous ceux dont il s'est servi. » Camilla restait immobile. Étonnée de son silence, son père leva les yeux sur elle. Ses joues étaient pâles et ses yeux égarés. Les caresses de M. Tyrold la ranimèrent. Mais les reproches les plus sévères auraient percé son cœur moins profondément que les paroles qui suivirent ses embrassements. « Calmez-vous, ma chère enfant, vous devez vous consoler et vous féliciter en songeant que vous n'avez jamais fait à vos parents d'autre chagrin que celui de la perte de votre bonheur et vous n'en êtes point coupable. Vous n'avez point d'imprudence à vous reprocher. L'égoïsme ne vous a jamais fait oublier vos devoirs, il n'a point relâché les liens de votre tendresse filiale. » « Suis-je assez puni ? » se disait intérieurement Camilla. Elle ne pouvait plus soutenir les regards de son père, dont les éloges et l'indulgence étaient fondés sur une erreur. Il invita tendrement à retourner auprès de sa sœur. Et craignant que tant de chagrins réunis n'altérassent sa santé, il résolut de renfermer sa douleur lorsque Camilla serait présente. Ses prédictions ne tardèrent pas à se réaliser. La démarche du premier créancier fut bientôt connue des autres. Ils suivirent son exemple. Chaque jour voyait arriver des mémoires et des demandes de paiement. Et comme il s'en fallait 2 ou 3 mois que Lionel ne fût majeur, ses créanciers ne fondaient leur espoir que sur la responsabilité de son père. Mais, indépendamment des mémoires, il survint encore d'autres réclamations. 2 jeunes gens de famille, pressés eux-mêmes par leurs créanciers, informèrent M. Tyrold des dettes d'honneur que Lionel avait contractées avec eux. M. Tyrold, réduit à prendre conseil de lui-même, résolut sans hésiter de payer, mais pour la dernière fois, les ouvriers et les marchands. L'embarras consistait à rassembler la somme d'argent nécessaire. Le total des mémoires montait à 500 et quelques livres sterling, et la totalité du revenu de M. Tyrold n'était que de 600 livres. Sur ce faible revenu, il avait eu constamment la sagesse d'économiser tous les ans 1/6 ou 100 livres sterling, destinés, avec les intérêts qui augmentaient annuellement le principal, à être partagés entre Camilla et Lavinia. Eugénia n'avait besoin de rien et Lionel devait hériter de la petite fortune paternelle. La dot de Madame Tyrold, qui consistait en peu de choses, parce que presque toute la fortune de son père avait été substituée à M. Elville, devait être divisé également entre tous ses enfants. Il répugnait également à son équité de prendre sur la petite masse une si grosse part pour les extravagances de son fils. Il n'était pas possible de s'adresser à M. Elleville, car quoique Lionel fût son héritier présomptif, M. Elleville était si souffrant et si justement irrité contre lui qu'en l'informant de ses nouvelles fautes, on risquait de le faire déshériter irrévocablement. Quant à Sir Hugh, on pouvait tout attendre de sa générosité. Mais son frère savait que sa bienfaisance l'avait empêché de rien réserver sur son revenu et que, dans les trois dernières années, Lionel l'avait pressuré sans miséricorde. Les préparatifs des deux noces venaient encore de le mettre très à court. Le résultat de cette triste méditation fut de mettre sa situation sous les yeux de ses filles et de leur proposer de concourir à l'acquis des dettes de leur frère en les payant sur la petite masse qui leur était destinée. Elles adoptèrent avec satisfaction un expédient qui ne semblait léser qu'elles, mais elles supplièrent unanimement M. Tyrold de déduire librement et sans retour la somme nécessaire. Elles protestèrent qu'aucune des jouissances de ce monde ne pouvait être pour elles aussi délicieuse que le plaisir de mettre leurs respectables parents à l'abri des privations et des chagrins. Les larmes roulèrent dans les yeux de M. Tyrold, mais c'étaient des larmes de joie. Il contemplait la tendresse filiale dans toute sa pureté. Mais quoique leur sincérité ne lui parût pas suspecte, il ne voulut point adopter ce dernier rangement. « Vous ne savez pas encore, leur dit-il, quelles pourront être à l'avenir les occasions où votre argent vous deviendra nécessaire. Ce que j'ai pu amasser jusqu'à présent ne suffirait pas même, sans en rien retrancher, pour vous assurer un sort commode et décent si quelque événement mettait un terme à ces accroissements. Ne vous affligez point, mes chères filles, ma santé me laisse l'espoir de prolonger ma vie. Mais on ne peut, sans présomption et sans folie, oublier la fragilité de son existence. En me préparant à la fin de mes jours, je ne les abrégerai pas et je les rendrai plus heureux. » M. Tyrold ne remettait jamais au lendemain une action qu'il croyait juste ou nécessaire. En conséquence, il établit dans toute sa maison un nouveau système. Il congédia deux de ses domestiques dont il pouvait se passer, et ce fut le sacrifice qui coûta le plus à son cœur. Sa table fut réduite au nécessaire indispensable. Il ne réserva de tous ses chevaux qu'un seul, dont les longs services lui semblaient mériter cette récompense. Enfin, tous les changements et retranchements que son économie exigeait furent exécutés sans le moindre retard. Alors il acquitta les mémoires de son fils. Quant aux dettes, appelées d'honneur, il n'eut pas pour elles la même complaisance. Il répondit en conseillant aux réclamants, lorsqu'ils adresseraient leurs coupables demandes à de malheureux pères de famille dont les calamités étaient leur ouvrage, de s'informer d'abord si leurs principes et leurs fortunes pouvaient compter les hasards du jeu parmi les objets de leur responsabilité paternelle.